Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Gisèle Cage.
Bonsoir et bienvenue dans votre journal des 18h sur Radio Okapi. Merci de rester avec nous pour l'essentiel de l'actualité. Ituri, la tension s'aggrave à Boulé. 100 000 personnes en détresse. Les affrontements quasi quotidiens avec la milice CRP paralysent la vie socio-économique. La société civile appelle le gouvernement à agir d'urgence. Chopo, Caritas Isangi s'explique sur le retard de paiement des enseignants. Après la marche des enseignants d'Opala, la structure religieuse affirme ne payer qu'après la libération des fonds par le gouvernement. Sud Kivu, pourquoi les écoles de Baraka tournent au ralenti? Vigoureux Alumwene Moulaké, sous-préfet d'intérimaire à Fizi 2, nous éclaire sur les obstacles qui freinent les activités scolaires dans les territoires de Fizi. Il est l'invité du journal. On ouvre ce journal par l'Ituri où la tension est à son comble à Boulé et dans les environs territoires de Djougourou. La situation sécuritaire et humanitaire reste critique. Selon la société civile, les tirs sporadiques et les affrontements avec la milice Convention pour la Révolution Populaire sont devenus quasi quotidiens. Conséquence, près de 100 000 personnes seraient bloquées à Boulé Centre, privées d'accès aux services, aux essentiels, aux champs et au marché. Une véritable détresse humanitaire. La société civile appelle le gouvernement à agir vite pour sauver des milliers de vies. Un reportage signé Isaac Remoyope, rendu par Jude Mister Bilonda.
Depuis près d'un mois, la situation sécuritaire reste volatile à Boulé, à environ 100 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou, une zone sous influence de la milice CRP. Des coups de feu y sont entendus quotidiennement, affirme la société civile locale. Des échanges de tirs ont notamment été signalés ce samedi entre les militaires ougandais déployés dans la zone et les éléments de la CRP et qui menacent la quiétude de la population actuellement regroupée autour de la base militaire des UPDF à Boulé. Ce même samedi, des éléments des FRDC ont également tiré plusieurs coups de feu pour disperser des miliciens dont le mouvement était observé en direction des Sandoukou. Selon des sources locales, malgré les interventions militaires menées depuis au moins 2 semaines, le groupe armé CRP n'a pas encore été démantelé dans les environs de Boulé, ce qui aggrave la situation humanitaire de la région. Plus de 100 000 habitants de ces centres commerciaux se retrouvent pris en étau entre les parties au conflit. Les activités agricoles et économiques, notamment les boutiques et les marchés, sont totalement paralysées. Les structures sanitaires sont également fermées, mettant en difficulté des centaines de blessés qui n'ont pas accès aux soins de santé. Selon la société civile, la situation continue de se détériorer et nécessite une intervention urgente du gouvernement.
Restons à Ituri, direction la prison centrale de Bounia, où l'heure est à la réinsertion. Les détenus sont invités à mettre à profit leur temps derrière le barreau en apprenant des métiers pour préparer leur retour dans la société. Cet appel vient de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO qui a lancé samedi une campagne de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Objectif, poser les bases d'un programme de formation professionnelle dans cette maison carcérale qui compte auprès de 2000 détenus. Les directeurs de la prison saluent cette initiative qu'ils jugent essentielle pour réduire les risques de récidive après la libération. Un reportage signé Isaac Remoyope.
Sous le thème « Comment transformer le temps de détention en opportunité économique en milieu carcéral », cette formation a réuni une cinquantaine de détenus, dont 11 femmes. Les participants ont été initiés aux notions des bases de l'entrepreneuriat, de la gestion financière et du développement personnel. L'objectif de cette démarche est de provoquer un changement de mentalité en amenant les détenus à considérer le temps passé en prison, non comme une perte, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage des métiers professionnels. Selon les directeurs de la prison centrale de Bounia, l'acquisition des compétences professionnelles contribue à réduire les violences en milieu carcéral et à limiter les cas de récidive après la libération. Le colonel Camille Nzonzi salue cette initiative de la MONUSCO qu'il estime en appui aux efforts du gouvernement pour une réinsertion socio-économique durable des personnes en conflit avec la loi. Il ajoute que certains détenus formés en maçonnerie ont été mis en contribution dans la construction de plusieurs infrastructures au sein de la prison, notamment les bâtiments servant de cellules pour les femmes femmes et les enfants. À noter que la MONUSCO a déjà doté la prison de machines à coudre et d'ordinateurs destinés à la formation des détenus, entre autres appuis. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Katanga, Cap, sur Lubumbashi, où la sécurité se renforce, 20 jeunes présumés délinquants, dont certains militants politiques, ont été interpellés par le service de sécurité. Ce vendredi, ils ont été présentés à la maire intérimaire dans le cadre de l'opération Zéro Délinquant au centre-ville. Objectif, assainir Lubumbashi et garantir la quiétude des habitants. Le point complet avec Paulin Munanga.
Parmi ces 20 personnes, il y a deux femmes. Ces jeunes sont accusés d'harceler et de tracasser la population au centre-ville de Lubumbashi. La maire intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa, demande aux partis politiques de retirer certains de leurs militants du centre-ville de Lubumbashi qui s'adonnent à la délinquance pour préserver l'ordre public. Et l'autorité urbaine rassure que la traque des jeunes inciviques au centre-ville de Lubumbashi va se poursuivre. Joyce Tunda Chansa. Des femmes craignent pour se rendre au centre-ville de Lubumbashi parce que vous, les inciviques, vous tracassez les mamans, vous volez l'argent des paisibles citoyens, vous tabassez les gens et vous tuez les gens dans la ville de Lubumbashi. Je continue de lancer un message aux partis politiques de retirer leurs militants au centre-ville de Lubumbashi tant qu'ils continuent de semer les désordres et nous qui représentons l'État congolais, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer de les arrêter et leur place, c'est la prison. Et nous allons vous transférer aujourd'hui au parquet. Signalons que c'est la deuxième vague des arrestations des jeunes en l'espace d'une semaine. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Direction la Tchopo, l'ONG Congo Hope Initiative tire la sonnette d'alarme et plaide pour une meilleure protection des droits de l'enfant, surtout ceux en conflit avec la loi. En partenariat avec la fondation Doudou Fouamba, elle a réuni hier à Kisangani des enfants concernés, des autorités et plusieurs organisations de la société civile. Objectif, réfléchir ensemble sur le thème marquant la 17e année de la loi sur la protection des enfants. Enjeux, défis et perspectives. Le rendez-vous s'est tenu à l'esplanade de la mairie de Kisangani. Un reportage signé Jacques Moukonkole, rendu par Jean Gandou.
Pour Congo Hope Initiative, cette commémoration est une occasion de rappeler que la RDC dispose d'un cadre juridique important en matière de protection de l'enfant. Cependant, le défi reste son application concrète, souligne Trésor Grison Kakumbi, son coordonnateur.
On doit protéger l'enfant, garantir la santé, l'éducation, la sécurité sociale, l'alimentation, pour qu'on ait les citoyens qu'il faut. Aux autorités, que chaque acteur politique de ce pays, que chaque citoyen agisse pour que les enfants grandissent comme ils se devaient.
Partenaire de Congo Hope Initiative, la fondation Doudou Fouamba a indiqué que son engagement est d'accompagner les enfants en conflit avec la loi à travers des actions sociales concrètes, comme le déclare son coordonnateur Trésor Batamba Aouka.
Pensons organiser avec l'ONG que nous avions appuyé un programme d'accompagnement pour ceux qui peuvent encore rentrer à l'école. Nous verrons ce que nous pouvons faire avec eux. Mais pour les autres, nous allons aussi créer un programme d'accompagnement et de formation des métiers afin que ces enfants-là puissent se prendre en charge et diminuer cet engouement des enfants dans la rue.
Pour sa part, le député national Fontaine Mangala insiste sur la responsabilité collective dans la garantie des droits fondamentaux de l'enfant conformément aux lois en vigueur en RDC.
Autre fait marquant de ce soir dans la Tchopo, la Caritas diocésaine d'Isangi sort du silence. Elle s'explique sur le retard constaté dans le paiement des salaires des enseignants placés sous sa responsabilité. Selon l'abbé Célestin Osandou, membre du conseil d'administration, la Caritas ne paye qu'après la libération des fonds par le gouvernement. Cette mise au point intervient 24 heures après la marche des enseignants du territoire d'Opala qui accuse la Caritas de détournement. Les explications avec Jacques Moukonkole.
Sur les 3 mois de salaire du dernier trimestre de l'année dernière, la Caritas n'avait reçu l'ordre de paiement du gouvernement que d'un seul mois. Cependant, les enseignants avaient refusé de percevoir cet argent, menaçant même des morts l'agent payeur de la Caritas, explique l'abbé Célestin Osandou, membre du conseil d'administration de la Caritas Isangi.
La Caritas a amené le mois de novembre, sans le mois d'octobre, les enseignants ont fait des mémos Et ils ont même prémédité que dès qu'ils verraient l'argent de la Caritas avec limite, moi sur les droits, ils allaient les tuer. Alors on ne pouvait pas exposer la vie des gens devant cette fureur.
Au terme d'une réunion institutionnelle de jeudi dernier à Kinshasa, le gouvernement, conscient du retard pris dans le paiement de tous les salaires, vient de débloquer le deuxième mois, déclare l'abbé Célestin Ossandou.
Et sur les trois mois qui faisaient problème, il y a déjà des mois qui sont débloqués par le gouvernement. Donc nous n'attendons que les derniers mois de décembre qui doivent encore être honorés par le gouvernement.
La mission de la Caritas se limite à distribuer les fonds reçus de l'État. Une fois réceptionnés, souligne l'abbé Célestin Ossandou. Ce dernier appelle les enseignants au calme et au dialogue, affirmant la disponibilité de la Caritas pour une franche collaboration afin de régler définitivement cette affaire. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Beni, au Nord Kivu, la lutte contre l'insalubrité s'intensifie. Ce samedi, le bureau unique de la mairie a annoncé plusieurs mesures pour redonner de la propriété au marché urbain des Kilokwa et Mayangos, acquisition des sacs poubelles, renforcement du charroi automobile et mobilisation des équipes de sensibilisation. Ces actions font suite à la présence inquiétante d'état d'immondice dans et autour de ces deux marchés. Le chef de la division unique de la mairie, Claude Nzimoto, nous en dit plus au micro de Marc Marofimbo.
Il a été dit que le véhicule transportant les légumes pourront effectuer des rotations la semaine et il y aura deux véhicules par déchargement et partout. Et c'est là, s'il y a par exemple 15 camions, s'ils les font deux partout, ils peuvent facilement décharger les 15 véhicules par jour. Et cela pourra éviter les immondices de traîner au niveau du petit marché Mayangos. Mais également, il a été dit qu'il faudrait veiller aussi au site de déchargement des immondices, car c'est là où ça produit beaucoup d'immondices, surtout le ménage, mais également au niveau du marché. Nous avons chargé l'entreprise Kamuzi, mais également Amako, de pouvoir sensibiliser leurs membres pour que chacun d'eux ait au moins un sac à côté de son étalage pour y déposer les immondices. Par la suite, comme il était dit, la société Forique pourra passer chaque mercredi et samedi pour les ramassages. L'assainissement, c'est un grand secteur qui demande également beaucoup de moyens. Chaque semaine, la mairie dispose de carburant pour assainir la ville.
Restons dans la région de Beni où la question de l'eau fait débat. Jusqu'ici, le prix d'un bidon de 20 litres variait d'un point de distribution à l'autre, chaque propriétaire fixant son tarif à sa guise. Une situation qui pénalisait les habitants. Pour mettre fin à cette anarchie, la mairie de Beni a réuni les responsables de la gestion de l'eau et a tranché désormais 100 francs congolais pour un bidon de 20 litres. Elle annonce aussi la création d'une commission enquête pour contrôler les forages distributeurs d'eau dans la ville. Les explications avec Vincent Makambo, chef de bureau à la mairie, au micro de Marc Marofimbo.
Officiellement, le bidon d'eau au ville de Beni, c'est 100 francs. Donc, 20 litres, c'est 100 francs. La plupart des forages sont faits clandestinement, soit par les entreprises de forage qui font les forages, qui n'ont pas encore l'autorisation du maire de la ville. Il y a des mesures qui ont été prises. D'abord, les mesures d'identification. Nous sommes en train de travailler avec les opérateurs pour qu'ils donnent le nombre des forages qu'ils ont faits, pour que le bureau de l'eau puisse les cartographier d'abord, les connaître. Il y a un travail qui sera fait par le service de l'économie pour commencer à identifier ces gens-là. On va d'abord connaître les opérateurs qui se sont dit à fixer l'eau à 250 francs. Après avoir les identifiés, on va encore faire une autre assise avec eux. C'est à partir de là qu'on va essayer de fixer l'eau, donner un prix qui sera adopté à tout le monde. Le service de l'économie va entrer sur le terrain pour identifier les gens qui sont au-delà de 100 francs. Parce que j'ai dit que l'eau, c'est 100 francs.
À Goma, parlons culture. C'est samedi, la maison des jeunes a vibré au rythme des mots lors d'un café littéraire organisé par le collectif des écrivains du Nord Kivu. À l'honneur, l'ouvrage le marque du parcours des Brianka Buoro. Un an après sa parution aux éditions Gay, ce livre continue d'inspirer et sert de modèle pour encourager la jeunesse, en particulier les jeunes filles, à prendre la plume. Entre passionnés de lecture et auteurs en herbe, l'ambiance c'était au partage et à la découverte. Rosalie Zawadi y était pour nous. Voici son reportage.
Je chante pour que les fleurs de mes mains fasse renaître la joie du vivre ensemble.
Cette rencontre de près de 3 heures a été marquée par des slams et des échanges autour de l'ouvrage Les marques du parcours. Brian Kabouro, son auteur, apprécie de voir un début d'intérêt pour la lecture chez les jeunes.
Pour moi, c'est une grande fierté en fait, non pas parce que j'ai parlé de mon livre, mais parce que j'ai vu les gens qui ne s'intéressent pas à la lecture venir pour une activité qui tourne autour de la lecture. Et c'est une grande fierté parce qu'au travers de mon livre, je vois les gens qui avaient une certaine méfiance vis-à-vis des livres s'intéresser à la lecture parce qu'ils se disent c'est Brianka, c'est quelqu'un que je connais, j'ai hâte de découvrir de quoi il a parlé.
En invitant Madame Brianka à cette rencontre, le collectif des écrivains du Nord Kivu veut amener plus de filles à suivre son modèle. Une initiative qu'apprécie Landry Mouanouka, un passionné de lecture.
D'habitude, quand il y a ces gens d'assises, c'est plus des espaces où on retrouve beaucoup plus de garçons. Et pour moi, voir autant de filles être réunies autour de la littérature, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup parlé personnellement.
Pour affûter la plume de ses apprentis auteurs, le président du collectif a lancé les défis de lire un livre par semaine. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ce dimanche, plusieurs explosions ont visé une dizaine de stations-service dans le sud de la Thaïlande, faisant 4 blessés selon l'armée. Les détonations survenues en l'espace de 40 minutes peu après minuit ont provoqué des incendies dans 11 stations situées dans les provinces de Naratiwa, Patani et Yala, zones touchées par une insurrection. Depuis 2004, cette région à majorité musulmane, voisine de la Malaisie, est le théâtre d'un conflit meurtrier opposant des rebelles réclamant une plus grande autonomie aux forces de sécurité thaïlandaises. Au Tchad, une nouvelle coalition baptisée Sauver la démocratie au Tchad a été lancée ce samedi 10 janvier 2026 à N'Djamena. Elle regroupe 7 partis politiques qui entendent unir leurs forces pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive du régime en place. Les membres de cette alliance promettent d'utiliser tous les moyens légitimes pour défendre la voix du peuple tchadien. Il critique la réduction des espaces politiques, le processus électoral de 2024 jugé contesté, les arrestations arbitraires visant des acteurs politiques et de la société civile, ainsi que la répression des médias et des opinions dissidentes.
L'invité.
L'invité du jour, c'est vigoureux Alumwene Mulake, sous-préfet intérimaire de la sous-division de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté Fizi 2 basée à Baraka dans la province du Sud Kivu. Il revient sur les raisons qui entravent le déroulement normal des activités scolaires dans les écoles de Baraka et ses périphéries dans le territoire de Fizi. Un entretien exclusif avec Jean Kassami Suvé.
Messieurs les directeurs de la sous-division éducationnelle Fizi 2, Vigouré Alumwene Mulake, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Kassami.
Depuis la fin des vacances du premier trimestre, il semble que les cours n'ont pas encore repris dans les écoles de votre ressort. Quelles en sont les raisons?
La situation de la reprise des activités scolaires ici à Baraka et ses environs est caractérisée par la lenteur, surtout observé au niveau des parents. Certains parents, oui, se réservent d'envoyer massivement les enfants à l'école pour raison de 1. Une fausse interprétation d'un communiqué de certaines structures de la société civile d'Uvira, certains groupes Wazalendo qui ont interdit les parents ou la population d'Uvira d'envoyer les enfants à l'école. Alors, la population de Baraka et ses environs a confondu ce message pendant que ces audios ou ces messages ne concernaient que la ville d'Uvira et non pas ici à Baraka. Baraka se trouve à 90 km d'Uvira. Le risque lié au combat ou au front est vraiment moindre qu'ici à Baraka. Bon, une autre situation qui contribue à la réticence des parents d'envoyer les enfants à l'école, ce sont les coups de balles qui étaient en train d'être tirés depuis il y a 2 semaines déjà. Donc les éléments FRDC présents ici sur place étaient en train de tirer partout là, d'une manière confuse. Chaque nuit, chaque soirée, la population était vraiment dans la psychose. Mais les autorités politico-administratives se sont impliquées dans la situation. Actuellement, il ne reste que des cas isolés des coups de feu qu'on enregistre en ville de Barak et surtout pendant la nuit.
Au regard de toutes ces pesanteurs sécuritaires que vous venez d'évoquer dans la ville de Baraka et ses environs, quels conseils voulez-vous adresser aux parents, aux enseignants et aux autres acteurs de l'éducation du territoire de Fizi?
Donc actuellement, je peux dire aux parents qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école parce qu'à Baraka centre et ses environs, il n'y a pas vraiment de sécurité comme à Ouvira.
Nous pensons qu'à partir de la semaine prochaine, les activités scolaires vont se dérouler normalement dans chaque école.
Et une fois les activités scolaires reprennent, quel sera l'essor des enfants déplacés et ceux qui ont traversé jusqu'au Burundi avec leurs parents pour se mettre à l'abri de la progression de l'AFC-M23?
Certains élèves et certains enseignants sont vraiment en déplacement vers Burundi et les périphéries des Baraka et Baraka Centre, en train de fuir des atrocités entre les deux parties en guerre. Alors, cela est en train de ralentir certains élèves et certains enseignants, et voire même les parents, de douter sur l'effectivité de la reprise des activités scolaires. Nous appelons quand même toutes les parties, chacun à vaquer à ses occupations. Donc, la sous-division des FISI 2 que nous chapeautons actuellement interpelle les parents, les élèves, les enseignants et les autres acteurs éducatifs de pouvoir emboîter les pas, les chemins de l'école.
Messieurs les directeurs de la sous-division éducationnelle FISI 2, Figuré Alumene Moulaké, je vous dis merci.
Oui, c'est un peu ça, messieurs les journalistes.
Figuré Alumene Moulaké, sous-préfet d'intérimaire de la sous-division de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté FISI 2. Il est basé à Baraka dans le sud Kivu. Il nous a éclairé sur les raisons qui entravent le bon déroulement des activités scolaires dans les écoles de Baraka et ses périphéries. C'est tout le journal de 18h sur Radio Kapi présenté par Gisèle Cage, mise en onde assurée par Jean-Claude Nsiala, coordination Jude Mister Bilonda. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter ce journal en podcast et pour des informations continues, rendez-vous sur radiocapi.net. Restez à l'écoute et passez une excellente soirée.